Amis de Radio Silence, bonjour et très bonne année 2026. Vous savez, à chaque fin d'année, enfin à chaque début d'année, on nous demande de faire d'écrire nos vœux sur ce qu'on attend de l'année 2026. C'est vrai que c'est difficile cette année de faire ces vœux-là. Parce que pour faire des vœux, il faut aussi s'appuyer quelque part sur un contexte général. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a la foi, bien sûr, on a la foi, on a la foi, mais et après, on est dans une année qui est un peu, je vais pas dire délicate, où tout est un peu chamboulé parce qu'on a une forme de brouillard devant nous. Cette fin d'année en 2025, ça s'est terminé déjà de façon chaotique pour le Cameroun et la France, bien sûr, et certains pays de l'Union européenne, comme je pense à l'Italie, je pense aussi, j'allais dire, le Royaume-Uni, mais ils sont vraiment plus dans l'Europe. Je ne sais même plus où ils sont, eux. Parce qu'ils ont les mêmes problèmes que ceux qui sont toujours à l'intérieur de l'Europe. C'est bizarre. Donc, on était sur déjà un mauvais feeling comme ça, une forme de, comment on va dire, ça stagne. Vous voyez, ça bouge pas. On est dans les mêmes rengaines tout le temps. Aux États-Unis, on était jusqu'à ce que M. Trump décide de faire l'impensable, aller kidnapper un chef d'État, précisément le président du Venezuela, M. Maduro. C'est énorme. Et ça s'est fait un peu comme d'habitude, hein, comme un jeu vidéo, l'hélico arrive, on vient, on embarque comme ça de manière indirecte. Hein. On téléporte le président, on l'embarque et on a dit lui sa femme. Enfin, on a dit, on a vu une image sauf, qui a fuité du tribunal de New York qui montre que sa femme, je ne sais pas si elle a été molestée ou si, je m'excuse hein, si j'ai dit cela, ou si c'est le coup de, vous savez, leur franc-maçonnerie, ils ont l'habitude d'exiger de leurs adhérents, de leurs fidèles plutôt, de leurs âmes, il faut le dire, qu'ils le montrent d'une façon ou d'une autre, soit c'est par des signes de la main qu'on connaît avec le diable, les cornes, soit c'est par cet œil poché, souvent il y a un œil qui est au beurre noir là, parce que toutes les stars ont fait cela, enfin ont sacrifié à ce rite public, parce que vous devez vous présenter aux yeux du monde, et bon, on ne sait pas si c'était ça ou si c'était vraiment une agression physique, parce que de l'autre côté, on n'a pas vu que M. Maduro pardon, portait les mêmes stigmates, mais lui aussi, il a fait un signe de victoire qui est aussi, dont on dit que culturellement en Amérique du Sud, cela a une signification de révolutionnaire, c'est un signe révolutionnaire, mais qui a aussi de l'autre côté une signification maçonnique. Alors vous écoutez Radio Silence, Flash sur le monde par Élise Mbok. Nous sommes le 10 janvier. Et que vous dire, je vous souhaite une très bonne année, que de bonnes choses, si ça sera possible, comme on dit, dans un monde de brut, où trouver le raffinement. Alors, on va repartir sur cette image de Trump, enfin de Trump, de l'hélico qui arrive dans un pays. Franchement, on pensait ces choses-là révolues à jamais. C'est-à-dire qu'un pays peut ne pas faire les choses qui plaisent au maître du monde, mais quand même, derrière cela alors, parce que c'est tellement gros, comme on dit, plus gros, plus ça passe, hein, kidnapper un chef d'État, ça on n'y avait pas encore pensé. On sait qu'on les tuait, on les éliminait, on faisait un coup d'État, mais alors aller les ramasser comme ça, comme de vulgaires brigands. Ça s'était jamais vu, mais bien sûr, M. Trump ne pouvait que dire que Le président Maduro était un de ces brigands voyous, donc l'opération se justifiait qu'il était à la tête d'un gang. Même si c'était le cas, il y a eu quand même comment on va dire, des contradictions à ce qu'il a, à ce que le, à ce mouvement-là. D'abord parce que le président, je sais pas, lui-même sait très bien, comme quelqu'un, je sais pas, je crois que c'est la vice-présidente qui l'a dit ou c'est le président du Mexique qui a dit, bah, si vous voulez lutter contre la drogue, c'est facile. Vous luttez contre les consommateurs déjà, et c'est vous les consommateurs de drogue. Déjà. Vous voyez, donc ça, c'est un peu. Bon, alors le président peut dire, je vais à la source pour arrêter tout ça. Sauf que le Congrès n'a pas été consulté dans cette affaire, parce qu'il n'aurait pas donné son accord. Et moyennant quoi, hier, il semblerait qu'il ait reçu sa gifle. C'est pas encore fini, au Sénat qui a voté pour lui ôter les pouvoirs de guerre de façon unilatérale comme ça, c'est pas bon, c'est pas bon. De l'autre côté, quand même, tout le monde sait, moi j'ai lu ça depuis longtemps, que le trafic de drogue est mené. C'est un hacker qui a hacké les sites du gouvernement américain et a trouvé que le trafic de drogue, c'est le ministère des Affaires étrangères qui était en pointe sur ce trafic-là. Et quand on dit trafic de drogue, c'est qu'après, on a tous les autres trafics. Et j'ai envie de vous dire, pardon, suivez mon regard avec l'initiative Clinton, où on trouve tous les trafics imaginables et non imaginables depuis les matières premières en Haïti jusqu'à la corruption généralisée, dont trafic d'influence, en passant par les enfants, trafic d'enfants qui inondent le monde entier, c'est-à-dire les grands de ce monde qui appartiennent. C'est pour ça que j'ai commencé par la franc-maçonnerie. Et puis, vous allez avoir les trafics du genre, puisque je vous livre les enfants, donc si vous voulez que l'Amérique fasse ceci ou ça pour vous, vous devez financer la fondation Clinton, bon, l'initiative. Sinon, toutes ces choses-là, ça revient au secrétaire d'État. Et ce hacker a aussi mis en évidence l'autre vérité, qui est que, enfin, vérité, c'est ce que lui il a observé, à sortie du site, mais depuis qu'il a publié ça, personne n'a démenti, que pour l'immigration, c'était le ministère de l'Intérieur. En quelque sorte, voilà, on va pas dire le FBI qui est à la base de ce trafic. Et si on pouvait avoir un doute, le doute est levé tout de suite parce que même pour la France, on a parlé de ce film, La French Connection, qui montre très bien. Je ne sais pas si c'est depuis le général ou si c'est après, avec Pompidou, les effets de crise qu'on voulait éviter, ou avec M. Chirac, c'est plus M. Chirac, M. Giscard, il fallait renflouer les caisses. On a vu que depuis, la drogue était au centre, l'importation de drogue était via donc tous ces pays, l'Afghanistan, l'opium et tout, était au centre de la politique. Pas étrangère, de la politique carrément administrative, on va dire comme ça, puisque le gouvernement se servait de cet argent-là, ça rapportait de l'or, on a des caciques, ça passait par Marseille, et c'est l'armée même qui prenait en charge la protection des convois depuis leur envoi. Donc cette histoire de drogue, quand on en parle comme si c'était une spécificité, pardon, des cartels de l'Amérique du Sud, c'est un peu trop facile. C'est comme si on disait que la drogue qui vient de. De toute façon, la drogue ne vient pas exclusivement de là-bas. Elle vient aussi de l'Afghanistan, peut-être qu'elle vient toujours, et de tous les autres, certains pays de l'Asie, mais ça, ce n'est pas le but ici de les citer, mais c'est. Ou d'aller chercher qui fait la drogue. Mais disons que presque tous ces grands pays ont inscrit l'argent de la drogue dans leur budget, que ce soit un budget transparent, celui qu'on vote à l'Assemblée nationale ou les caisses noires. Et donc, vivent leurs autorités et leurs élus. Vous voyez? Et ceux qui sont qui font partie du système. Par exemple, les grands. Alors, il y a quelqu'un aussi qui passait sur Internet il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui se revendiquait vraiment un grand trafiquant de drogue, mafieux, qui fournissait les grands de ce pays, c'est-à-dire la France. Et ben, qui dit que tout ça, il leur a fourni la drogue, et que la drogue, c'est l'État qui gère. Donc, finir dire que si l'Amérique du Sud, si le Venezuela, si le Mexique, c'est un peu court, ou tous les ou l'arrière-garde de l'Amérique, c'est un peu court comme raisonnement et comme raison pour aller intercepter comme ça, enfin, pas intercepter, piquer comme ça, kidnapper, moi j'appelle ça un kidnapping. Bon, on dit qu'il y a eu des complicité au sein de l'appareil d'État vénézuélien, bon, forcément, mais en même temps, même si si ces complicités n'avaient pas existé, est-ce que le Venezuela est en capacité de s'opposer à la pression, enfin, à l'agression militaire américaine? C'est un peu ce que M. Nicolas Sarkozy a fait pour exfiltrer le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et l'amener à la CPI. Là, pour le moment, le président Trump n'est pas allé jusqu'à la CPI, mais il a lui-même déjà une contestation extraordinaire. Et bien sûr, les démocrates n'attendaient que cela pour lui sauter à la gorge. Et certains républicains qui ont fait défection, comme Mitt Romney, mais ça, Mitt Romney, lui, il a une rancune, ce qu'ils appellent les RINO, Republican In Name Only, c'est-à-dire ceux qui sont en vrai des transfuges socialistes et qui se disent républicains et qui n'en sont à rien. Quand on dit socialiste en Amérique, c'est très péjoratif, c'est-à-dire c'est des gens qui croient aux LGBT, qui croient à toute, vous savez, il y a toute une rhétorique là-bas de chaque parti pour dénigrer l'autre. Bon, voilà, cette histoire de Trump, elle est difficilement explicable et en même temps, on nous rapporte que. Enfin, je lis là ce matin, quelqu'un a fait une étude sur le Congrès et a constaté qu'à peine 10% des élus de ce Congrès, qui sont 535 membres du Congrès, à peine 10% ne sont pas financés par l'EPAC, le lobby d'influence. Comment on va dire, israélite, parce que quand on dit l'autre mot, les gens se fâchent. Et à peine 10%, le reste, c'est-à-dire, d'après les chiffres de ce monsieur, 98,2% sont entièrement payés par le lobby EPAC israélien. Et ce lobby a une exigence. Quand on dit payer, c'est votre campagne qui est totalement prise en charge, en contrepartie, parce que quand votre campagne est prise en charge, ce sont eux qui ont les médias, donc vous allez gagner, sauf si vous êtes très mauvais. Et en principe, vous avez pour vous signer un contrat, ça on le savait déjà, qui vous engage à faire passer les intérêts d'Israël avant ceux de l'Amérique. C'est incroyable. Alors du coup, on ne sait pas sur une opération comme celle-ci. Si M. Trump agit par lui-même ou sur ordre, parce qu'il ne s'agit pas seulement des membres du Congrès, hein, ça va jusqu'à la Maison Blanche de tous les élus. C'est une question, on ne sait pas. Une question, d'autant plus qu'il y a une autre corrélation qui est l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, on nous a dit depuis, oui, vous connaissez déjà le réseau des trafics d'enfants dans l'île du Bonheur ou des îles. Et jusque-là, c'est comme l'affaire P. Diddy, ça accouche d'une souris, il n'y a pas de censure, il n'y a personne qui faisait partie du réseau. Et pourtant, de publication en publication, on a démenti. Et d'ailleurs, si on réfléchit très bien à la façon de fonctionner de l'EPAC et de tous les lobbies, et d'Israël en particulier, le maître du chantage, on verra que chantage politique, économique, financier, tout ce que vous voulez, si on réfléchit très bien, sais pas, on verra que Epstein. Tout ce réseau donc de gens qui étaient supposés en faire partie, bah, on voit pas de photos, on voit rien. Et c'était une opération en fait de la CIA conjointement avec le Mossad qui avait pour but, et c'est là que l'EPAC, ce lobby, trouve vraiment toute sa force, c'est Une fois que vous êtes passé là, on a filmé comme chez P. Diddy et ces images-là vont servir au chantage. Ça va vous tenir toute votre carrière politique et vous serez obligé de faire comme ils disent, peu importe votre conscience, parce que c'est soit vous faites comme ça, soit on publie les photos. Et dans ces photos-là, il est évident que M. Trump ne peut pas manquer, parce qu'avant, c'était un peu sa vie aussi, quoi. Ça, pas, il était bon vivant. Il organisait les Miss Monde. D'ailleurs, on dit que la femme de Charlie Kirk, qui est décédée, avait été une de ses Miss. Donc, vous voyez, le monde est petit, hein, le monde est petit, tout ça se regroupe, tout ça se groupe, le service, de toute façon, les services de mannequinat. Les services de Miss, enfin les services, les concours, mannequinat, Miss, fashion, plus journalisme, plus finance, plus politique. Tout ça a finalement été confisqué par un groupuscule de personnes qui se partagent les postes comme au sein d'une, enfin, comme dans une balle de chaise musicale. Et puis après, il y a des coups pareils qui arrivent. On ne sait pas trop si c'est le président Trump tout seul. D'autant plus que Barack Obama a fait une révélation extraordinaire. Il avait dit que une chose que chaque président des États-Unis découvre, enfin, il va meurt avec ce secret, c'est pas seulement les codes nucléaires, c'est que quand vous arrivez le matin, il y a une voix qui vous appelle et vous donne des instructions sur ce qu'il faut faire. Donc après, quand on parle de l'auto-peine de M. Biden, c'est dans la même veine. On se demande dans quelle mesure les présidents américains sponsorisés comme ça fortement par le lobby EPAC et puis tous les chantages autour sur leur vie sexuelle, notamment très compromise avec l'histoire de sacrifice dont on entend et puis d'enfants, de pédophilie. On se demande à quelle mesure ils peuvent être indépendants. C'est très difficile. Alors, M. Trump, il va se débrouiller avec ça, mais ce qui paraît quand même un peu plus au-delà maintenant de tous les liens occultes qu'on voit, qu'on subodore, il y a la question de l'endettement de l'Amérique, mais ça, on n'en parle plus tellement parce que, enfin, on n'en parle pas tellement parce que bon, c'est le monde entier qui paiera, mais il y a surtout la question de la chute de l'Empire américain. Voilà. Alors, une chute qu'on veut retarder parce que les choses se sont dramatiquement accélérées dans le sens qu'ils ne pensaient pas. Et ils se retrouvent un peu avec un pétrodollar qui est en train de tomber en lambeaux et sans lequel le train de vie américain n'est plus supportable. Parce que, figurez-vous, qu'à un moment donné, les gens, quand ils ont pris la facilité d'aller piller ailleurs et de vivre là-dessus, ils font semblant d'être des grands économistes, des grands financiers. Mais il y a une différence entre l'économie et la finance du vol et du pillage et la vraie économie qu'on faisait avant. Que quelqu'un comme Charles Gave, en ce moment, explique, quand il dit, par exemple, on lui demande quelle est sa formule, si on lui donnait la France aujourd'hui, il dit sortir l'Europe direct, sortir de l'euro direct, supprimer toutes les autres autorités qui sont là, qui servent à rien, direct, on récupérerait, je ne sais pas combien elle a dit, d'argent, et ça, on le traduirait, hein, cela se tra il le traduira en baisse d'impôts direct parce que les entreprises françaises suffoquent sous les charges et sous les impôts. Et d'ailleurs, je ne sais plus, j'ai mis le chiffre, un chiffre record, je crois, de 65 000 fermetures d'entreprises l'an dernier, pas loin depuis le Covid, ça ferme, ça ferme, ça ferme. La France sous Macron, c'est la saignée économique et c'est la saignée, bien sûr, diplomatique. Alors, bon, l'Empire s'écroule. C'est ce qui se passe avec l'Amérique et donc il faut aller peut-être trouver. Je sais pas, après, il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais c'est pas sûr que ce soit seulement le pétrole qui justifie la recherche du pétrole du Venezuela, qui encore que oui, mais ça suffit pas. C'est aussi une façon pour lui d'empêcher, de freiner l'évolution fulgurante de la Chine dans son progrès qui est phénoménal. Et la Chine réussit un pari qu'ils n'avaient pas vu venir. Et donc, lorsqu'ils ont fait, c'est parce que l'Amérique n'a fait que se tromper, lorsqu'elle a mis en place, et c'est elle-même une balle dans les pieds, hein, l'Empire s'écroule de lui-même, de toute façon, de son immoralité financière, de son immoralité, on a vu là vis-à-vis des enfants, je sais pas, anthropologique, de son immoralité, j'ai envie de dire génétique, de ses injustices sociales incroyables, s'appelle l'oligarchie, de son inhumanisme imbuvable, et puis de cette escroquerie qui consiste à se mettre sous la table ensemble, à dire on va fonctionner comme ça pour le pétrodollar, et après ça suffit pas, il suffit qu'ils ne soient pas d'accord avec vous pour qu'ils vous foutent des sanctions, qu'ils gèlent vos avoirs, de façon à vous mettre vraiment en grosse difficulté. Ce chantage-là, les États ne l'ont plus accepté. Donc ça a créé forcément ce que ça a créé en Ukraine, une réaction de la part des États qui ont dit ben, il faut vraiment laisser tomber cette histoire de dollars parce qu'après on vous vole votre fric comme on a volé celui de Saddam Hussein de l'Irak, qu'on leur a renvoyé par des hélicos qui repartaient. Je ne sais pas si c'est Obama qui a eu cette charge-là. L'argent arrivait dans les ministères dans des conditions insoupçonnées. Donc chacun se servait. Du coup, l'Irak n'a même pas pu récupérer son argent parce que c'est encore tout un vol micmac, ça arrive aux autres autorités qui ont tout bouffé et n'ont pas fait le projet. Et l'Irak est toujours là, souffre. Je sais pas, l'argent, la Libye, ce que ça devient, etc. Ça, c'est un modèle qui marche plus et ils ont fait les sanctions sur Cuba, les sanctions alors sur le Venezuela. Et pour contourner ces sanctions, bien sûr, en Russie, on connaît, là aussi, se sont tirés une balle mortelle pour contourner l'embargo. Le Venezuela était obligé de faire appel à la Chine. Donc la Chine aide beaucoup, mais en contrepartie, pour se faire payer, elle a préempté aussi une partie du pétrole. Et c'est pourquoi l'Amérique fait la police des mers pour intercepter tous ces bateaux qui vont pour régler la Chine, parce que c'est un argent sur lequel ils n'ont pas prise. Vous voyez le contrôle et la surveillance jusqu'où ça va. Alors après, c'est vrai que la Chine va réagir comment? Ils ont même d'ailleurs intercepté aussi un navire russe. Je suis pas sûr que battant pavillon russe, parce que la Russie, je crois pas qu'elle manque de pétrole. C'était, je sais pas, battant pavillon russe. Il y a toute une, ils appellent ça les navires fantômes. Des navires qui font passer le pétrole vénézuélien tranquillement en direction d'autres grandes puissances pour essayer de sortir la tête de l'eau. Je sais pas, vous pouvez pas en même temps mettre des sanctions à quelqu'un, l'empêcher de vivre, et puis après, quand vous voyez qu'il veut survivre, vous allez encore l'étrangler. De l'autre côté, c'est cruel, c'est inhumain. Cet inhumanisme, ça ne passe plus. Ça même pas, ça a pas de sens. Mais dans leur monde, ça a un sens parce que moi, qu'est-ce que je vais dire? Je suis un peu blasé là pour ce début d'année parce que déjà, on voit qu'il y a une forme de contagion dans les méthodes malsaines du passé. Vous voyez, on allait déstabiliser l'Iran parce que l'Iran. Mais toujours, vous aurez la main d'Israël derrière. Quoi que vous fassiez, vous aurez sa main. Ça allait déstabiliser. L'Iran, parce que ça va arranger Israël et puis parce que ça va beaucoup déranger le guide suprême. Pour vous déranger, et puis ça va vous freiner et ça va vous faire paraître le grand méchant loup. Ça, c'est ils sont dessus. L'Iran a vu une révolution arriver comme ça, on ne sait pas trop comment. Il y a toujours des ennemis de l'intérieur. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à une société, on a mis une société en place, un monde où la corruption est plus puissante que le nombre de morts. Où la corruption dépasse et surpasse toutes les consciences et toutes les conditions humaines possibles. C'est incroyable. Donc, et en cela, la lutte contre la corruption est l'affaire de ces 10 prochaines années. Et je ne sais pas par où on commencera, mais c'est l'affaire au niveau du monde. Vous avez vu le scandale, ça, j'aurais dû peut-être choisir ce sujet parce que la commission d'enquête qui va reprendre bientôt sur les abus de la télévision française, mais c'est hallucinant. Hallucinant, vous avez vu, hein, les journalistes ont des salaires de pacha pour raconter que des conneries. Ils ont des chauffeurs et des véhicules de fonction. Ouh là là, ils ont des salaires. Le salaire moyen, c'est 70 000 euros par mois. Non, mais c'est de la folie. Des vacances de, je ne sais pas si c'est 3 mois. Tranquille, quoi. C'est-à-dire, ils ont un train de vie, ces journaleux, qui est dans le ridicule complet. Alors, ils veulent pas trop qu'on en parle. Alors, n'imaginez pas la présidente des France Télévisions et tout, du racket médiatique avec les financements publics du ministère de la Culture, vous savez qui est la ministre et comment elle arrive là, qui alloue la moitié de son budget à financer toutes ces conneries médiatiques. L'autre moitié, on ne sait pas ce qu'elle fout, parce que, y avait un cinéma français qui a disparu. Il y avait une culture française. Bon, maintenant, c'est les immigrés qui chantent. Mais après, il y avait aussi une tradition musicale française. Elle est disparue. Je sais pas si tout va à volo en France en matière culturelle. Or, c'était des pointes, pas des pointes, des postes de pointe, oui, budgétaires même, de la France, de la culture. Hein, les gens viennent pour la Tour Eiffel, les gens viennent pour Paris, on dit la ville de l'amour, les gens viennent pour une façon d'être parisienne qui n'existe même plus trop, on voit plus trop où c'est. Pour une certaine, moi j'ai même été une fois dans un train TGV, je ne sais pas si je revenais, si c'était le trajet Paris-Lyon ou l'inverse, et une Canadienne me disait, mais ce qu'elle adore en France, c'est les croissants. Rendez compte, elle dit que les croissants et les pains au chocolat n'ont pas leur pareil au monde. Alors quand elle arrive en France, elle devient folle de croissants et tout. Mais effectivement, le croissant français, c'est quelque chose. Tout ça, ça se perd quelque part dans tout cette déculturation, dans toute cette. On parle même plus de médiocrité de gouvernance, c'est du racket, du pillage public. Dans ce manque d'originalité, bon, après, maintenant, vous avez les paysans qui pleurent aussi, c'est foutu, les campagnes françaises toutes belles, avec cette paysannerie, enfin, je sais pas, c'est tout un décor, hein, la France. Prenez le TGV, vous allez voir les campagnes, elles sont magnifiques, elles sont belles, elles sont paisibles, il y a des élevages, tout ça risque de foutre le camp. Non, la France, elle n'a plus d'âme. Alors, si vous n'avez plus d'âme, vous n'existez plus, en fait. Et bon, tout ça parce qu'au cœur du système, la corruption s'est installée, notamment depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. De façon. Avant, il y avait la drogue, comme vous a dit, mais alors la corruption, elle est dévastatrice. Donc, le portrait de la France, il n'est pas très glorieux. L'endettement, je ne sais plus les chiffres. J'ai vu l'Amérique, c'est 38 000 milliards de dollars, donc 1 200 milliards qu'ils payent par d'intérêt, qu'ils payent par an. Bon, enfin, c'est des chiffres, c'est plus, ça correspond à quoi du PIB. La France, c'est pas loin aussi, trop de dettes. Tout ça nous donne vraiment pas le moral. Et on se dit, que restait-il? Il y a aussi une autre nouvelle avant de conclure, qui est celle des lieux fantômes, des sites fantômes qu'Israël aurait mis en place, qui font que les tombes, voilà, les tombes fantômes, les tombes de ci, de ça, qui sont là-bas, sont des tombes qui ont été inspirées du récit biblique et qui font que ça, enfin, ça donne une idée, une forme d'authenticité à la terre promise qui serait là, parce que depuis longtemps on construit ces fausses tombes, la tombe de tel prophète, enfin tous les repères bibliques sont en quelque sorte retracés sur le sol, et ce sont des tombeaux vides, tout ça de façon à s'approprier par la suite. Mais ça aussi, il faut vérifier. Quelqu'un disait que le monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est la manipulation, c'est la falsification, c'est le mensonge, je sais plus l'autre trait. Donc tout cela impacte l'histoire, impacte les religions, impacte la politique forcément, etc., etc. Alors, on va conclure sur le Cameroun, parce que tout c'est lié. Dans ce monde de brutes, on a donc notre gouvernement ici, qui ne fait pas dans la dentelle. Les élections, vous savez comment elles se sont passées. Monsieur Chiroma est toujours en exil en Gambie. Et ici, la répression silencieuse continue, sévit, c'est-à-dire, soit vous mettez au pas, vous restez très poli, soit vous essayez encore la ramener. Et tout de suite, on vous rangera du côté des gens qui veulent la guerre et qui veulent trouble à l'ordre public, vous risquez gros dans cette affaire. Ceci dit, bon, les choses pour le moment se passent comme si tout était normal. Voilà, ils ont gagné les élections, ils les ont remportées. Il y a quoi, les cérémonies de présentation des vœux. Il y a, bon, on fait comme si tout allait bien, mais sauf que depuis 2019, il n'y a pas eu de remaniement ministériel au Cameroun, malgré les scandales vrais et supposés, et malgré le nouveau mandat. Oh, c'est un statu quo, comme ça, on reste là, on attend. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ce que Trump a fait, qu'il laisse. Bon, encore que l'Amérique, elle peut réagir un peu, mais ici, dans les institutions, le fonctionnement institutionnel camerounais ne permet pas de réagir vraiment. Les gens sont neutralisés par, je sais pas, le lobby juif, certainement, mais ça, on n'en parle plus parce que vous savez que c'est la superstructure, d'ailleurs, du monde entier. Mais on a quand même on a un pincement au cœur parce que c'est pas tellement l'élection qui a été détournée et tout, parce que c'est vrai qu'il y a aussi eu une grosse impréparation et naïveté de la part de l'opposition. Non, pas il n'y avait pas d'opposition finalement, c'était mensonge, falsification comme on dit. Il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas d'opposant. Voilà, et le seul opposant, c'était M. Tchiroma. Tous les autres étaient là, c'était des figurants. Maintenant, la vérité est établie, elle est claire. Et ça, c'est. Vous voyez, quand j'ai dit que la corruption est le phénomène à combattre pour les prochaines années, tous payés, 10 candidats à l'opposition qui arrivent comme ça, qui embrouillent l'espace public, qui polluent l'espace public, je ne sais pas si vous imaginez jusqu'où ça va, ces choses-là. C'est terrible. Donc, c'est des farces électorales. Malgré cela, quand même, M. Tchiroma était arrivé en tête parce que le peuple a lui-même opéré à une. Comment on dit ça? Il a coupé les têtes. Il a fait la guillotine de tous ceux qui étaient là parce qu'ils se sont montrés très ambigus. Il a balayé tout ça avec des scores de 0 à 3% parmi les 10 là pour laisser juste le combat se faire entre M. Biya et M. Tchiroma. Bon, du coup, c'est embêtant pour le gouvernement parce qu'ils pensaient brouiller les cartes comme ça, mais ils n'ont pas réussi à ce niveau-là. Mais ce qu'ils réussissent, c'est quelque chose, moi, les bras m'en tombent, de voir que nous étions dans une illusion républicaine ou démocratique. On n'a jamais pensé dans ce Cameroun que une ethnie pouvait revendiquer, ça un peu comme la race aryenne, quoi, une supériorité politique sur les autres et confisquer le pouvoir à la vie, à la mort, tout en pillant le pays, tout en ne le construisant pas, en laissant les populations dans la misère, et recourir à une répression sans, je veux dire, sans pitié. Et on n'a jamais pensé qu'une ethnie pouvait penser que le pouvoir leur revenait de droit et c'était exclusivement leur chose. En l'occurrence, on parle de l'ethnie Boulou. Malheureusement, la capitale se trouve là-bas. Après Boulou, Ekan, Boulou, Béti, Eton, c'est le groupe Ekan. Donc pour eux, le palais des Toudis, qui a d'ailleurs été construit par Monsieur le Président Ahmadou Ahidjo, parce qu'avant, le palais présidentiel était effectivement sur le terrain d'un certain ministre Mbargamboa, je ne sais pas les ministres de quoi, moyennant quoi on leur paye des loyers faramineux, le terrain est immense, et ça c'est aussi une autre escroquerie incroyable. Je ne comprends pas comment un pays, un État étant si grand, il ne peut pas acheter sa terre et puis construire son palais. Donc M. Ahidjo est sorti de cet étau, il a construit ce palais des Toudis, un joyau, qui fait que même si on veut faire La guerre, alors ça va faire très mal au cœur si on pouvait faire exploser ce palais. Non, il est très beau, il est magnifique. C'est patrimoine. Alors, Monsieur Aïdjo, qui est du Nord, a construit ce palais, son idée, sans lequel il n'existerait pas. Et des gens, parce qu'ils sont autochtones de là, disent que le pouvoir politique est à eux, exclusivement à eux, et c'est eux qui peuvent donner, faire faveur, vous voyez. C'est plus qu'un lobby, hein, faire faveur, ou c'est pareil, ou c'est, je sais pas, faire faveur de vous accorder des postes en fonction d'un équilibre régional, et puis vous devez dire merci. On pensait qu'on était sorti de là, et quand on voit qu'on est terrorisé par les propres noirs, ah, ça dépasse l'entendement. En ce moment, plusieurs pays africains sont en train de créer de nouvelles capitales, probablement à cause de cet accaparement de la chose publique qu'on confond avec la chose ethnique. Mais c'est ça qui vous fait très mal au cœur. Vous dites, mais toutes ces années-là, donc on était dans le leurre, on était dans l'illusion, ils faisaient semblant, non, on ensemble, vivre ensemble, c'était le mot, la République et tout, et tout le monde a fonctionné jusqu'à se rendre compte qu'en 2018, c'était déjà un peu, il y avait eu une sorte de, comment je vais dire ça, de frémissement. Mais alors cette année, 2025, les choses sont cash, le langage est cash, et c'est pas seulement les autorités, c'est aussi même les membres de cette ethnie, pas tous heureusement, qui disent des choses énormes. C'est genre, vous gênez pas, il y aura jamais. Donc on s'oriente. En temps normal, si chacun était équipé, on s'orienterait vers une guerre civile. Et vous voyez, une ethnie. Au Cameroun, il y a 5 ou 10 groupes ethniques quand même très puissants sur les multitudes. Hein. Je ne sais pas, c'est ça qui rend fou ici en fait, de se rendre compte qu'on a été trompé et manipulé pendant tout ce temps. Alors moi qui écrivais sur les facteurs qui vont peser dans l'élection présidentielle, moi j'écrivais ça de façon, comment on va dire, finalement, c'était. Enfin, mais je n'ai pas été la seule surprise et tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris parce que ce genre d'obsession pathologique, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais j'ai pensé à une phrase d'Harry Potter, je ne sais plus dans quel épisode. Oui, c'est pas qui dit ça, ou c'est Voldemort, je sais pas, ou c'est qui dit que le bien et le mal n'existent pas. Seul existe le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour aller le chercher. On revient, c'est ça en fait. Seul existe le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour aller le chercher. Donc, ce groupe. Betty, Fang, tout ça, ils avaient une longueur d'avance que les autres n'ont pas vue. Franchement, il fallait voir le Cameroun vivre, personne n'aurait pensé à une énormité pareille, une absurdité pareille, qui, pour le coup, n'est plus dans la superstructure, c'est l'infrastructurelle. C'est ça. On n'y a pas pensé parce que vous savez, la démocratie, la République, c'est un roman, c'est un chant qui se situe comme ça au niveau de la citoyenneté de tout le monde. Ce n'est ni supra ni infra, c'est pour nous tous dans une forme de fraternité, comme le dit si bien le slogan français retrouvé. Et quand on arrive à se rendre compte qu'en fait, toute cette fraternité est minée d'en bas hein, par l'ethnie infrastructurelle et en haut par la superstructure, vous voyez que le Cameroun est pris en étau, pour ne pas dire en otage, mais en étau. Il est pris dans un étau. Oh, le mot étau, ça m'arrive comme ça, je voulais pas en parler. Vous savez, il y a une coupe, il y a la CAN, histoire de sport qui ont distrait les gens. Parce que dans la servitude volontaire, pour arriver à ça, à obtenir ça des gens, il faut trois choses. Il faut d'abord qu'il y ait l'habitude. Les gens ont l'habitude de ça et ils s'habituent donc à un chef d'État de 43 ans facilement. Et il faut qu'il y ait des spectacles et tout ce qui peut divertir les gens. Et le football au Cameroun, c'est une religion. Ça donne l'illusion d'être ensemble, qu'on a une citoyenneté cimentée, une fraternité cimentée, bétonnée, que personne ne peut toucher. Et c'est quoi la troisième condition? Je sais plus. Oui, il faut que le chef joue dans le mystère. C'est ce que M. Biya fait très bien, qu'il soit toujours absent, qu'on ne le voit pas, et que quand il apparaît, c'est comme Dieu qui apparaît. Alors tout le monde est comment dire, médusé devant l'écran, hypnotisé. Oh, on l'a vu, oh, il est apparu par là. Oh, bah, il ne gouverne pas, il ne gouverne pas. Donc ce sont des tactiques bien mûri, qui font que ça perturbe beaucoup les gens. J'ai lu quelque part, ça s'appelle un chaos émotionnel. Vous-même, vous êtes content sans même savoir trop pourquoi, parce que vous souffrez la mort, la rage, mais vous êtes content parce que vous êtes bêtis, parce que votre président est là-bas. Vous vivez par procuration, mais au fond de vous, vous êtes dans un chaos terrible, une dimension chaotique, émotionnelle, indescriptible. Donc voilà, monsieur, on a éliminé le Cameroun, c'est un drame, oh là là, quart de finale. Déjà, ils ont viré l'entraîneur Marc Brice de façon. Ah, c'est épouvantable. Hein? Monsieur Eto'o, il n'est pas Betty Fang, tout ça, mais l'un de leurs produits, sous-produit ethnique. Alors, il pleure, oui, mais monsieur Eto'o, depuis qu'il a la tête de la Fédération camerounaise du football, et je sais pas de quoi là, ben, les Lions Indomptables ne gagnent rien. Et le fameux stade, ah, vraiment, je vais pas entrer dans les scandales parce que on n'en finit plus, c'est passé ça, c'est plus le moment, on avance, on va de l'avant. Le fameux stade Olembé qui a coûté, je sais pas, des milliards et des milliards, ici on dit tout en milliards, donc vous savez plus où vous en êtes. Avec un toit qui a été fait selon, on nous dit, les écailles de pangolin, un truc luxueux qui s'abîme pas, qui, bon, enfin, mais encore faut-il l'entretenir? Il devait abriter un hôtel 5 étoiles, je sais pas quoi, dans ses entrailles, comme s'il pouvait. Tout un projet mirobolant qu'ils nous ont présenté sur les maquettes, c'était extraordinaire. Et voilà, tout en décrépitude et en lambeaux. Monsieur Eto'o est là, président, il va dire, ah non, mais c'est pas moi, il paraît que c'est Antoine Bell qui était. Je parle de ces deux noms parce que vous les connaissez, c'est des gens qui étaient en France. Monsieur Bell a joué beaucoup dans le championnat français. Je sais pas, c'est lui qui s'occupe des équipements. Il y a quelqu'un qui s'occupe des équipements, il y a un autre qui s'occupe du championnat, et les gens se plaignent de ne pas être payés. Enfin, c'est un micmac à la camerounaise, mais laissons tomber, là aussi, Eto'o. Espagnol, double nationalité. Monsieur Bell est français, double nationalité. Mais quand il s'agit des amis, ben, il y a les passe-droits, hein, la double nationalité. Aller au faire foot, on accepte. Et puis pour les autres, non. Bon, ça, c'est ce monde-là qui est devenu. Je sais pas comment le dire. Si vous êtes faible, vous rentrez dans un chaos émotionnel. Ça, c'est clair. Et sinon, après, je ne sais même plus si on peut être faible ou fort, mais quand on a une situation de blocage, comme ce qu'on a en ce moment, qu'est-ce qu'on dit? Que le pouvoir, que, ouais, le mal et le bien n'existent plus. Non, non, on ne va pas dire ça, on va pas dire ça. On va rester sur une note positive et dire, amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Mbok. C'était le premier flash de la nouvelle année. Faut prier Dieu, hein, parce que les choses sont très opaques. C'est l'incertitude totale. Et pour le Cameroun, moi, je peux vous donner rendez-vous aux prochaines élections législatives qui ont lieu, je sais pas, avril, mai, législatives et municipales. C'est pour moi, à ce moment-là, que ça va vraiment bouger. Mais tout peut arriver. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt.